VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Ouagadougou, 14h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. On commence par les Jeux Olympiques de Rio au Brésil. Quelques 45 chefs d'État s'y seront aujourd'hui à la cérémonie d'ouverture des Jeux, soit bien moins que les 70 présents à Londres en 2012. Pour un lever de rideau, rejoignons à Rio notre confrère Alvaro Andrade.
Nous voulons proposer la plus grande fête jamais organisée dans ce pays, dit Daniela Thomas, co-directrice artistique de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. L'organisation ne sait pas encore si le roi Pelé allumera la vasque olympique. Le gouvernement a annoncé hier plus de 80 millions de dollars pour la cérémonie d'ouverture. 3 milliards de personnes vont suivre l'événement à la télévision. Les Jeux Olympiques demandent une organisation titanesque qui suscite des questions alors et en proie à une grave crise économique et politique. 15 000 personnes ont protesté contre le président Michel Temer qui sera à la cérémonie. Une des grandes attractions des Jeux Olympiques est la participation de l'équipe des réfugiés intégrée par 10 athlètes africains. Alvaro Andrade, Rio de Janeiro, Brésil.
Afrique maintenant, entre le Burundi et le Rwanda, les relations se gâtent. Depuis hier, les véhicules de transport ne sont plus autorisés à franchir la frontière entre les deux pays. Les détails avec Arzuma Compaoré.
La police burundaise a confirmé que les véhicules de transport Volcano Yahoo Horizon en provenance du Burundi vers le Rwanda ne peuvent plus dépasser la frontière depuis hier à 8h GMT. La mesure est réciproque pour les véhicules venant du Rwanda vers le Burundi. Les véhicules de transport s'arrêtent à la frontière, les passagers descendent et traversent à pied pour prendre des voitures de l'autre côté. Les relations entre les deux petits pays voisins se sont détériorées depuis le coup d'État manqué du 13 mai 2015. Bujumbura accuse Kigali d'abriter les opposants et les rebelles. Le Rwanda a toujours démenti et accuse le Burundi d'abriter des miliciens FDLR, ce que démentent les autorités burundaises.
En Afrique du Sud, l'ANC, le parti au pouvoir, a reconnu aujourd'hui sa défaite aux élections municipales dans la ville de Port-Elisabeth face au principal parti d'opposition, l'ADEA, l'Alliance démocratique. Bastion historique de la lutte anti-apartheid, Port-Elisabeth constitue un revers majeur pour le parti de Nelson Mandela au pouvoir depuis la fin de l'apartheid en 1994. Au Mali, renforcement du dispositif de sécurité à Nampala suite à la récente attaque dans cette ville qui a fait 17 morts. 6 soldats sont également portés disparus. Le point avec notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
À la suite des événements tragiques qui sont survenus à Nampala le 19 juillet 2016, le chef d'état-major général de l'armée a dépêché une mission d'enquête et de commandement sur le terrain, colonel Abdoulaye Sidibé.
Le rapport d'enquête diligentée sur le terrain le 24 juillet à la suite des événements douloureux de Nampala a établi un bilan qui fait état de 17 morts, 37 blessés et 6 portés disparus.
Des dispositions ont été prises pour transformer le poste de sécurité de Nampala en camp militaire.
Actuellement, nous avons un GTIA qu'on peut déchiffrer comme Groupement Tactique Inter-Armes qui est déployé à Nampala avec 100% de ses capacités, ce qui signifie un peu plus de 500 hommes avec plus de 100 véhicules.
Le nouveau camp militaire de Nampala sera un peu loin des populations, colonel Abdoulaye Sidibé.
Il y avait presque une imbrigation entre la position militaire et les populations civiles. Le camp a été retiré pour ne pas être imbrigué au sein de la population civile.
Le nouveau porte-parole du ministère de la Défense et des anciens combattants a demandé à la presse d'aider l'armée malienne dans sa mission Bamako. Kassim Traoré, VOA Afrique.
Toujours concernant la lutte contre les islamistes, le chef de la branche du groupe État islamique dans le Sinaï en Égypte a été tué. C'est ce qu'affirme l'armée égyptienne, Eddy Sango.
Abu Doua al-Ansari, chef du groupe Ansar Beit al-Maqdes, branche du groupe État islamique dans la péninsule du Sinaï, a été tué dans des frappes de l'armée égyptienne. Les forces égyptiennes ont annoncé la mort du leader djihadiste sur leur page Facebook, précisant que plusieurs de ses adjoints ont été liquidés pendant cette opération. Toujours selon les Caire, 45 combattants islamistes ont été tués et des dizaines d'autres sont blessés. Les groupes Ansar Beït al-Maqdes mènent des attaques visant essentiellement les forces de sécurité depuis plus de 3 ans. Responsables de nombreux attentats dans les Sinaï, ces groupes auparavant liés à Al-Qaïda avaient fait allégeance à l'État islamique en novembre 2014.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
La lutte contre les djihadistes toujours. Le président américain Barack Obama a donné hier au Pentagone une conférence de presse après une réunion de plusieurs heures avec les leaders militaires américains. Compte rendu d'Eric Manirakiza.
Le président a déclaré que de grands progrès ont été faits pour affaiblir le groupe État islamique. Mais il a simultanément reconnu que ces extrémistes continuaient de poser une menace alors qu'ils changent de tactique pour recruter et entraîner de nouveaux membres et encourager les attaques par les loups solitaires. Sur le terrain en Syrie et en Irak, le groupe État islamique continue de perdre des pans de territoire. Cependant, et tragiquement, nous avons vu aussi que ce groupe a encore la capacité à diriger et à inspirer des attaques, a dit Barack Obama. Bien que de telles attaques puissent aboutir à moins de carnage, l'organisation djihadiste sait qu'elles peuvent encore créer le genre de crainte et soucis qui élèvent son profil. Monsieur Obama s'est engagé à lutter de manière agressive sur tous les fronts contre cette menace. Nous continuons avec nos alliés et partenaires d'attaquer le groupe État islamique partout où il tente de s'étendre. À la demande du gouvernement d'Union nationale de Libye, nous menons des frappes et appuyons les forces pro-gouvernementales pendant qu'elles tentent de reprendre Sirte au groupe État islamique pour sécuriser leur pays.
Suite de notre série sur les familles présidentielles africaines, aujourd'hui le Bénin, 4 mois après son élection à la tête du pays, l'homme d'affaires Patrice Talon fait face déjà à des mécontents, tant au sein des populations que de la classe politique. Certains acteurs politiques reprochent au président béninois une gestion cavalière sans boussole et axée sur la recherche de ses intérêts personnels et ceux de ses proches, et ce après seulement 100 jours au pouvoir. De Cotonou, notre correspondante Ginette Fleur à Dandé.
Il aura fallu qu'un seul conseil des ministres pour que la vague des mécontentements se lève, prête à emporter dans ses flots le chef de l'État nouvellement élu et qui le 6 avril dernier a prêté serment sous les vivats et les acclamations du peuple désespéré mais confiant en l'avenir. Mais au premier conseil des ministres, les décisions tombaient et faisaient tant d'heureux que de malheureux. La suspension des concours frauduleux, les nominations de certains artisans, de la victoire du chef de l'État, la résurrection de certaines sociétés de gestion du coton appartenant jusqu'à un passé récent au président de la République et dans lesquels plusieurs milliards ont été investis suite à une décision prise en Conseil des ministres ont suffi pour faire déchanter certains. C'est le cas d'un certain Lord Rouenou qui s'est déclaré opposant et qui, à travers des sorties médiatiques et autres, tient des propos bien corsés sur la gestion de l'équipe pour Lord Rouenou. L'homme d'affaires est juste venu remettre ses affaires à flot.
Le chef d'État donc a trouvé bon d'envoyer 48 milliards dans le coton alors que les deux entreprises qui s'occupent donc du coton, l'AIC et Sodeco, ces entreprises-là sont très proches du président Talon. Il se retrouve là. Il est le président du conseil d'administration jusqu'à hier de l'AIC. C'est vrai, il a dit dans le journal Le Monde qu'il a cédé ça à ses enfants. Ses enfants, c'est encore lui. Et donc, on n'a pas apprécié ce fait-là. Donc, je pense qu'il est aujourd'hui dans une posture de juger parti. Je pense que le peuple doit donc s'apprêter à faire la lutte avec nous.
Il sera rejoint dans son élan par un autre jeune connu pour avoir milité aux côtés du gouvernement défunt. Le Bénin serait, selon ses dires, devenu un État totalitaire.
Nous avons un gouvernement qui navigue à vue. Nous avons un gouvernement qui est sans vision. Nous avons un gouvernement qui est sans priorité. Parce que diriger un pays, ça se prépare. Quelle est la boussole aujourd'hui de notre gouvernement? Plus de 3 mois après, le gouvernement n'a pas un programme de développement. Sur quelle base les populations vont évaluer l'action gouvernementale si le gouvernement n'a pas un programme de développement? C'est ça qui explique la navigation à vue dans tous les domaines. Le poids est complètement tombé. Nous demandons donc au gouvernement de prendre ses responsabilités, de mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut.
Mais du côté des proches du chef de l'État, on préfère se garder de répondre à ce genre de provocations, guidées selon eux plus par le désir de se venger d'une déculottée dans les unes que d'une volonté de construire et de participer au développement national.
Je veux vous faire remarquer que le président Talon est un pur produit du du secteur privé. Premier élément, fondamental. Donc c'est quelqu'un qui a appris à être rationnel. Il n'a pas appris à gaspiller les ressources. C'est ça d'ailleurs qui a fait qu'il a réussi. Donc je le vois déjà venir transposer le système privé, hein, fondé sur la rationalité, la rigueur dans le système de gouvernance publique.
En attendant une opposition fiable pour seconder la veille citoyenne qui se fait par la société civile, les Béninois continuent de croire que Patrice Talon conduira le bateau bénin à bon port, même si certains ont perdu l'espoir. De Cotonou, Ginette Le Adonné pour VOA Afrique.
Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.